Le navire de Tarsis, ô Jésus-Christ. Il y eut dans la tribu de Zabulon un prophète qui s'appelait Jonas. Le navire de Tarsis, ô Jésus-Christ. Je disais tout de suite qu'il y eut dans la tribu de Zabulon un prophète nommé Jonas, qui était le fils d'un homme appelé Amittai. Et nous parlons du prophète Jonas et nous verrons si nous aussi, nous avons fait le choix de Jonas ou si nous avons fait le choix de Jésus. Jonas était un prophète dont les écrits n'étaient pas abondants, mais c'est un livre qui résume toute notre vie. La vie que nous menons avec Dieu. La vie que nous menons en tant que croyants qui se réclament de Dieu, pouvant prophétiser, pouvant parler avec Dieu, plein du Saint-Esprit. Pouvant même voir que les autres ne sont pas des chrétiens. Les écrits rapportent que l'Éternel s'est adressé à Jonas. Jonas, chapitre 1. L'Éternel s'est adressé à Jonas et lui a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive est appelée ici la grande ville. Et selon les archéologues, Ninive, les murs de Ninive, les murs qui entouraient Ninive, faisaient entre 67 et 89 km. C'était une grande ville et on parle même de 1500 tours de surveillance avec des murs qui font 30 mètres, les murs qui entourent la ville qui font 30 mètres de haut et les tours 60 mètres. Et donc c'était une ville surveillée. Dieu l'appelle la grande ville. Et Dieu demande à Jonas d'y aller et de prêcher la parole de Dieu. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix. Le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tarsis devait aussi, selon l'archéologie, devait être au sud de l'Espagne. Et donc, pour Jonas, comme pour toi et pour moi, Dieu n'existe que là où nous sommes. Et donc, s'ils ne sont pas quelque part, ça ne nous regarde pas. Ça ne regarde pas Dieu. Dans mes prières, souvent, je dis à Dieu partout où je suis concerné. C'est-à-dire, même si je ne vis pas dans une ville, dans un village, dans un univers, dans un monde spirituel où il y a une discussion me concernant, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce qui se passe afin que je puisse te louer. Et pour Jonas, Dieu n'existe qu'en Israël. Pour beaucoup de gens, Dieu n'existe que dans leur église. Alors, et Jonas a voulu fuir loin de la face de Dieu. Il est allé à Jaffo, il a pris le billet, il a acheté, comme nous tous, il a acheté son aventure, je ne veux pas dire son malheur, il a acheté son aventure avec son argent, ne sachant rien de ce qui va se passer sur le chemin. Pour lui, il a tellement de l'assurance que et monter dans un bateau qui va à Tarsis et débarquer à Tarsis laisserait Dieu en Israël pour que lui puisse décider de sa vie. Ça suffit. Il avait déjà commencé par conseiller les rois 20 ans avant. Les choses ne changent pas comme il avait souhaité. Et voilà que Dieu, lui, il ne parle même pas d'Israël où il y a des problèmes. Il l'envoie dans une ville méchante. Donc, en tant que grand conseiller de Dieu que nous sommes, que Jonas est, lui, il a voulu laisser Dieu avec ses affaires en Israël pour se cacher à Tarsis, loin de la face de Dieu. Je vais vous lire un passage, un beau passage dans la Bible. Pour nous tous qui achetons nos aventures avec de l'argent, qui perdons de l'argent pour aller acheter nos aventures, c'est-à-dire, Maobo Waleke, Leke. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de la face? Qu'est-ce que la Bible raconte? C'est David qui parle. Dans le psaume 139, à partir du verset 7, du verset 7 au verset 18, je reviendrai peut-être sur ce psaume encore avant la fin du message. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, de l'autre côté à Tarsis, là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Si je dis, et je vais me coucher, je vais tirer tous les rideaux, et comme ça, Dieu, lui, il va rester dehors. Il est lumière, bon, je m'occupe de mes affaires, n'a qu'à aller là où il veut. La nuit devient lumière autour de moi, dans mes ténèbres. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je vais m'arrêter au verset 12 que nous avons dépassé pour revenir plus tard sur ce psaume 139. David explique que ne pas suivre Jésus. Jésus-Christ a fait allusion à tous ces gens lors de son passage sur terre. Et la parole de Dieu dit que de Moïse jusqu'à Malachie, la parole de Dieu annonce l'arrivée de Jésus, de Genèse jusqu'à Malachie. Jonas aussi annonce dans son message, dans son comportement, ce que Jésus sera pour nous. Jésus-Christ est tellement tout pour nous que même David dit que même si tu fais semblant de mourir et que les gens font semblant de t'enterrer et qu'ils te mettent la terre dessus ou que tu es mort complètement, Jésus-Christ est là-bas, dans les cimetières, dans les tombes. Je ne sais pas si le message, parfois, vous le comprenez comme il se doit. Jésus-Christ est dans la tombe. Tu ne peux pas, ne crois pas que c'est trop pourri et il n'est pas dedans. L'Esprit de Dieu est dans la tombe. La preuve est que des gens passant avec un cadavre, qui ont peur, ils ont jeté le cadavre sur le corps d'Élisée, je crois, sur la tombe d'Élisée. Le cadavre, il a repris vie. Il y a quoi dans la chambre? Les eaux desséchées d'Élysée, le cadavre a repris vie. Si, même si tu fais semblant d'aller dans une tombe, il est là-bas. Partout où tu es, il est là-bas. Mais Jonas, comme nous tous, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Le titre, c'est Le navire de Tarsis ou Jésus-Christ. Obéir à Dieu ou aller acheter un billet pour prendre le navire de Tarsis pour être loin de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler, il a pris sa barque. Hein. Les gens venaient et allaient tranquillement chaque jour. Et lui, comptant sur l'ingénierie, l'ingéniosité de ceux qui conduisent cette barque, et il est allé sur les pilotes et autres. Donc, il allait prendre un billet pour aller à Tarsis, pour être loin de la face de Dieu. Qui ne le voit pas. Ce Dieu-là, ce monsieur-là qui dit qu'il est Dieu d'Israël, aujourd'hui dit ceci, demain dit ça. Bon, quand je serai à Tarsis, on verra avec qui il va parler encore. Donc, il est monté dans la barque. La barque, Dieu a laissé la barque prendre son chemin. Quand un vent impétueux s'est déchaîné, il se leva sur la mer, une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre, de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Souvenez-vous du navire d'Alexandrie dans Acte 27. Eux aussi. Et Paul leur a dit, je ne crois pas que cette traversée se fera sans perte, y compris pour le navire, les marchandises et pour nous-mêmes. Mais la parole de Dieu dit que le centenier, qu'il est, puisque ce sont des prisonniers, il y avait 276 personnes dans la barque. Le centenier a faisant confiance au pilote et au patron du bateau. Je crois que c'est le mot patron qui a été utilisé. Ça dit que le propriétaire du bateau aussi est tellement sûr de son commerce, de sa barque, que lui-même, il est dans le bateau. Donc, le navire ne peut pas. Le centenier a fait confiance, non à la parole de Dieu, mais il a fait confiance au pilote et au patron du navire. Comme ici, avec les tempêtes, eux aussi, ils ont sorti tout ce qui rendait la barque lourde. Et peut-être que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne un bateau. Et donc, ça peut vous sembler bizarre qu'on sorte les choses et qu'on les jette. Pour mettre des marchandises dans un bateau, il faut connaître le poids de chaque marchandise. Les marchandises doivent être rangées de sorte que le bateau n'aille pas d'un côté. Donc, tout doit être bien rangé de sorte que le bateau soit droit. Si vous mettez trop de poids d'un côté, le bateau risque de chavirer. Donc, quand vous êtes dans un bateau qui prend des marchandises et qui a une tempête, ce qui se passe, c'est que s'il y a de la place d'un côté, lorsque le bateau penche d'un côté, toutes les marchandises vont de ce côté-là. Donc, ça augmente le risque de naufrage. Donc, ce que les gens font, c'est de prendre la nourriture qu'on peut manger maintenant et puis tout le reste des marchandises, on renvoie ça dans la mer, on jette ça dans la mer, pour que le bateau soit au moins équilibré en luttant contre la tempête. Dans le navire de Tarsis, les gens ont utilisé cette science. Et dans le navire d'Alexandrie aussi, ils ont utilisé cette science. Ça n'a rien géré. Pour ceux qui comptent sur les diplômes, sur la science, sur les autres choses, quand Dieu est dans la tempête, ne croyez pas que la science viendra faire quelque chose. On prendra tous les scientifiques avec toutes les connaissances possibles, ça ne marchera pas. Et donc, ils ont fait tout ce qui est possible, jeter les marchandises. Et Jonas est descendu au fond de la barque, puisque la tempête continuait. Lui, ce qui est important pour lui, c'est de fuir, d'être loin de la face de Dieu. Jésus-Christ dira aux Israélites, aux Samaritains, le temps vient et il est déjà venu. L'heure vient, elle est déjà là. Pour le n'adorera plus sur Dieu sur cette montagne, ni à Jérusalem dans le temple. Car Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Car c'est là, je crois que c'est Jean 4, je ne sais plus, car c'est là les adorateurs que Dieu cherche. Jonas ne croyait que Dieu est. C'est comme son grand-père ou son oncle. Donc, s'il lui prend la barque, il s'en va et il ne va plus le voir. Il ne sait pas que Dieu est esprit. Et puisque certains prophètes, certains dieux, le Seigneur se montre à certains sous forme d'une personne, donc il peut penser que c'est un magicien qui vient te voir et puis après il disparaît. OK. Et donc, il est allé sous la barque, au fond de la barque. Et il croyait que, bon, cette affaire, même si je meurs, c'est mieux. Je veux mourir. Il est plongé dans un sommeil profond, il ne veut pas savoir comment ça va finir. Mais que tu dormes. Ou que tu ne dormes pas. Mais Dieu continue son œuvre. Donc, il était dans un profond sommeil quand les autres, ils ont prié, prié, prié leur Dieu, invoqué leur Dieu. Mais quand le pilote a constaté que, mais, il manque une personne qui n'a pas invoqué lui son Dieu, il est où? Il commence à le chercher, il va au fond du navire. Le voilà en train de dormir, quoi. Mais lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que lui aura pitié de nous. Parce qu'il n'a jamais vécu ces choses. Et il reste un Dieu qu'on n'a pas encore invoqué. Et bon, il est allé le chercher. Et il lui a posé des questions. Et tu viens d'où, monsieur? Quand dans cette affaire-là, toi, tu arrives à dormir, tu es doux. Quand les choses sont troubles, les chrétiens dorment. Il y en a même qui disent, ne me couignons comme Jonas. Puisque nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, nous ne savons pas que c'est notre désobéissance qui provoque les tempêtes de Dieu. Nous pensons parfois même que en dormant, en multipliant les séances de sommeil, ça va régler un problème. Dieu est là et le problème continue. Dieu a un objectif. Tant que tu ne l'auras pas écouté, ça ira de mal en pire. Alors, Jonas dépassé, on l'a demandé même, quelles sont tes affaires? C'est-à-dire, il n'y a qu'à où le mot. Parce qu'ils sont sûrs que quelqu'un est rentré dans ce navire avec des problèmes avec un dieu. Et c'est pourquoi ils sont en train d'invoquer les dieux. Quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce bateau? Tu vas où? Il leur a dit, ah, la tempête qui souffle là, c'est à cause de moi que ça souffle. Les gens disent, donc qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête? Il dit, jetez-moi dans la mer, puisque votre bateau refuse de se noyer. Il ne veut pas arriver à Tarsis. Il ne veut pas se noyer non plus. Donc jetez-moi dans la mer. Comme ça, vous serez libre. Moi, je vais me noyer dans la mer. Qui dit au fil. d'écouter Dieu. Tu peux aller au fond des mers. Le psaume 139 dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Il est allé au fond des mers. Oh, c'est devenu plutôt un temple pour prier. La mer s'est calmée pour les autres qui ont continué leur voyage. Mais lui, il a trouvé un temple dans le ventre d'un gros poisson pour prier. Le navire de Tarsis contenait un Jonas qui dormait au fond de la barque. Mais pour que la tempête puisse se calmer, il fallait le jeter lui-même hors de la barque. La barque de Jésus qui allait chez les Gadaréliens, dans cette barque, il y avait aussi un autre Jonas qui s'appelle Jésus, au fond de la barque qui dormait. Quand on l'a réveillé, il a demandé aux autres, mais oui, homme de peu de foi, on n'a pas eu à invoquer plusieurs dieux. Mais vous ne pouvez pas invoquer votre seul Dieu de l'autre côté en allant à Tarsis. On a invoqué les dieux, tout le monde. Oui, sur une mer avec une pirogue, une barque qui allait chez les Gadaréniens aussi. Il y avait un Jésus-Christ qui dormait au fond de la barque. Mais lui, quand il est arrivé, lui-même était dans la barque. Et il a demandé à la tempête, il a demandé à la tempête de se calmer. Mes amis, dans Matthieu 7, comme des passagers de Tarsis, Pierre et les autres aussi étaient passagers. En allant sur le territoire des Gadaréniens. Et Paul et les autres disciples aussi étaient passagers dans la barque. Comme Jonas, Jésus-Christ aussi dormait au fond de la barque. Mais Jonas n'a trouvé aucune solution que de mourir lui-même. Mais les disciples de Jésus, toujours dans la barque, pouvait dire, saisi d'étonnement, Matthieu 7, verset 27, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Nous poussons notre désobéissance vis-à-vis de Dieu au point de pouvoir même tomber d'être jetés dans la mer croyant que nous cherchons des solutions. Nous esquivons Dieu, nous croyons que nous esquivons Dieu, nous croyons, comme on dit en football, nous feintons Dieu. Quand nous voyons que ah, ça va m'attraper ici, je ne veux pas faire ce que Dieu m'a dit, je trouve le moyen de passer à côté, je fais autre chose. Je raconte autre chose. Jonas pensait qu'aller à Ninive, là, ça n'arrivera jamais. Donc, maintenant, en le mettant dans la mer, en pleine mer, il n'y a pas de solution. Il va mourir comme ça. Il n'ira pas à Ninive. Parce que Jonas ne voulait pas avoir de contact avec le péché. Il pensait que c'était un contact avec le péché. Alors que Dieu avait préparé Jonas pour qu'à travers lui, plusieurs, Dieu lui a dit, il y a plus de 120 000 personnes dans cette ville. Vous lisez, je crois que c'est le dernier verset de Jonas, 4, chapitre 4, quand Dieu faisait le reproche à Jonas qu'il se, que lui se préoccupe de la mort d'un petit arbre, alors qu'il y a 120 000 personnes qui devaient périr. Jonas voyait Ninive comme un monde, une ville de péché, et ne voulait pas avoir de contact avec cette ville. Or, c'est pour cela justement que Dieu, que Jésus-Christ est venu. Et si vous avez fait attention, Jésus-Christ a même déclaré, non seulement il a vécu ainsi, il a déclaré qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Il est venu pour ceux qui sont dans le péché. C'est avec eux qu'il a eu contact. Et ça irritait les religieux qui étaient les pharisiens, les sadducéens, les sadducéens et autres, parce que Dieu est trop pur pour qu'on dise que quelqu'un est fils de Dieu et qu'il aille avec les femmes, et les, quoi, quoi, les prostituées, les voleurs, les malades, les lépreux. Non, tous ces gens-là sont considérés comme des problèmes. Mais tous ces gens qui ont eu le courage d'avoir le contact avec Jésus-Christ ont eu leur solution alors que les pharisiens sont restés avec leurs problèmes. Dans la mer, Jonas 2, chapitre 2, dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier. Chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, il dit, dans ma détresse, il est en train même de tromper Dieu. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Quand est-ce qu'il a invoqué l'Éternel? Du sein du séjour des morts, comme dit David. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Ce n'est pas ça qu'il cherchait. Loin du regard de Dieu, dans le ventre maintenant du gros poisson, il réalise qu'il verra encore le Saint-Temple de Dieu. Mes amis, ne laissons pas notre vie aller jusque dans le ventre du poisson pour réaliser que nous ne pourrons pas fuir Dieu. Ne laissons pas notre vie aller jusque dans le ventre du gros poisson pour réaliser que nous ne pourrons pas fuir Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Verset 10, chapitre 2. Dieu s'en fout de nos sacrifices. C'est bon de les faire, de nos voeux. C'est bon de les faire. Mais voici ce qui a aidé Jonas. Verset 10, la dernière phrase. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Jonas 2. Verset 10, 10, la dernière phrase. Le salut vient de l'Éternel. Quand il ne savait même plus où il était, Il s'est rendu compte que le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, verset 11, et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est quand il a vu que le salut vient de l'Éternel, pas de lui, Jonas, qui pense que c'est lui qui va apporter le salut à Ninive. Alors l'Éternel l'a déposé à la plage de Ninive. De toute façon, il peut payer le propriétaire de bateau, hein, mais Dieu, lui, il n'a pas besoin d'être payé. Il a des véhicules free. Tu les prendras. La mer, le gros poisson. Et c'est ainsi qu'il est rentré dans Ninive et il a crié. Ce qui fait peur dans ce genre de choses, c'est que quand il a commencé, donc c'est une grande ville, c'est comme si on t'envoie seul à Lomé ici pour te dire, pour dire que tu dois crier pour que tout le monde écoute. Dès que les populations commençaient par voir, dès qu'ils ont commencé par recevoir, écouter la parole de Dieu, ils ont même commencé par gêner, demander pardon à Dieu. Dans le cœur de chacun, Dieu a mis son existence. Ça fait partie des choses les plus sûres au monde. L'existence de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a prêché. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prêché à quelqu'un. Non. Dans le cœur de chacun, ça se réveille. Quand tu l'as oublié, le moment arrivera où tu trouveras qu'il faut être obéissant. Peut-être parmi nous vivent encore des gens qui sont comme à Ninive. Mais le cri de Jonas est en train de retentir. Le cri de Jésus, au-delà de la mer, de l'autre bord, dans le territoire des Gadaréniens, retentit encore aujourd'hui. Le navire de Tarsis, ou Jésus-Christ. Quand Jonas a commencé et que les citadins, les premiers citadins ont commencé par et prendre le pardon gêné. Entre-temps, le roi a été informé qu'il y a quelqu'un comme ça qui s'occupe, qui dit que si on ne fait pas attention, cette ville va être détruite. Et le roi lui-même a commencé par se mettre dans une situation pour demander pardon à Dieu et a demandé à tous les citoyens, y compris les bœufs, les chèvres, tout, de ne pas boire, de ne pas manger et de demander pardon à Dieu. Ce territoire a été entièrement sauvé. Le navire de Tarsis ou Jésus-Christ. Le navire de Tarsis a aidé Jonas à aller à Ninive. Mais c'est plutôt les gens de Ninive qui ont compris le message de Dieu. Comme Paul est sorti d'Israël pour aller vers les idolâtres afin qu'ils soient sauvés. Mais les Israélites, religieux qu'ils sont, n'ont pas reçu Jésus. Ni à sa naissance, ni au cours de ses 33 ans. Je ne resterai pas dans la barque de Tarsis. Je resterai dans la barque des Gadaréniens qui vivent chez les Gadaréniens, où Jésus-Christ est toujours dans la barque. Jésus-Christ est resté dans la barque. Quelles que soient les difficultés,
Jésus-Christ est toujours dans la barque. Quelles soient nos difficultés, ce que Dieu nous demande, c'est de faire ce qu'il demande. Mais Jonas, lui, il a eu l'audace même, après avoir prêché, mes amis, après avoir fait ce que Dieu a dit, il a eu l'audace même de dire à Dieu que lui, Dieu est là. Il n'est pas un Dieu sérieux. Et Jonas dit, Jonas 4, verset 1 jusqu'à 3. Jonas, chapitre 4, verset 1 à 3. Jonas dit, on dit, je lis, cela déplut fort à Jonas. Mais comment toi tu peux sauver ces personnes de plus de 120 000 qui sont dans leur péché et autres? Comment toi, Dieu, tu peux avoir contact avec ça? Comment tu peux aller dans cette ville? Comment tu m'envoies faire ça? Jonas est devenu le professeur de Dieu. Que nous sommes, quand Dieu nous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Nous trouvons que la Bible a dit que la Bible a fait quoi, 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 quoi. Et nous, jamais nous ne voulons être dans la position où nous sommes contents que Dieu a eu pitié de nous et est venu jusqu'à notre propre niveau, nous, notre niveau, pour nous parler, pour nous changer. Alors, Jonas fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Écoutez bien. Le comportement des chrétiens, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre soit sauvé. Alors que Jésus-Christ, dans Matthieu, à la fin de son séjour, après sa retraite, a demandé à ses disciples d'aller vers le monde pour que la bonne nouvelle soit annoncée partout. Qu'est-ce que je voulais prévenir? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Il explique à Dieu qu'il a fait. Quand il était dans le ventre du poisson, il n'avait pas trouvé que, il n'était pas irrité, il avait vu que Dieu était bon et qu'il va faire ses vœux, ses offrandes. C'est pourquoi je vous dis que Dieu n'a pas besoin de ça. Il rappelle à Dieu, moi j'ai voulu fuir à Tarsis, voilà que tu m'amènes encore dans ce que je ne voulais pas faire. C'est quoi ça? C'est Jonas qui parle à Dieu, un homme qui parle à Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans nos prières. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Tarsis, le navire de Tarsis, de Jonas, ou Jésus-Christ qui est riche en bonté, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et qui se repent du mal, c'est-à-dire quand nous avons mal fait, il nous lave avec son sang. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. C'est-à-dire, pour le bien que Dieu a fait pour que lui, il ait contact avec les pécheurs. Mais voyant la délivrance que Dieu a apportée à travers ce contact, voici un monsieur qui s'irrite. Voici une femme qui s'irrite. Voici un enfant qui s'irrite. Voici un adulte qui s'irrite. Et qui dit qu'il préfère encore être dans le bateau de Tarsis, mais puisque je n'ai pas pu m'éloigner de toi. Lui qui disait tout de suite, que Dieu va le faire revoir le temple dans... Non. Et que le salut vient de l'Éternel, il dit, si tu as pu faire ça, délivrer par ton Esprit Saint plus de 120 000 personnes, si ma présence, moi, Jonas, je suis allé, et que j'ai pris contact avec ces gens qui sont dans le péché, et que leur contact avec moi a provoqué de grandes choses dans le royaume des cieux, des choses merveilleuses. Je suis irrité, je n'aime pas ça. Je sais que tu es comme ça, toi, ce Dieu-là. Tu peux sauver à travers le mal. Et pourquoi tu fais ça? N'est-ce pas toi qui as dit que c'était méchant? Non, il vaut mieux pour moi. Fais-moi mourir. Mais puisqu'il y a la force de décider des choses, pourquoi il va demander à Dieu de mourir? Pourquoi lui-même ne meurt pas? Il ne prend pas le nez pour mourir. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nue et qui a péri dans une nue. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et les animaux en grand nombre. Dieu a eu pitié non seulement des hommes à travers ce contact, mais à travers aussi les biens, les animaux, tout, 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 tout. C'est ce que notre Dieu est quand nous l'acceptons. Si nous refusons le voyage de Tarsis et que nous prenons la barque des Gadaréniens dans laquelle se trouve Jésus-Christ, Dieu prend soin de nous et prend soin de nos biens. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, ils prennent la barque de Ninive, de Tarsis. Et à la fin, il s'énerve même que Dieu a fait du bien à d'autres personnes. Mes amis, Jésus-Christ est né. Ce n'est pas mercredi qu'il naîtra. Il a vieilli. Ce n'est pas mercredi qu'il grandira. Il est dit que le dessein de Dieu pour Jésus-Christ existait même avant la fondation du monde. Ce n'est pas, ça n'a pas été une découverte. Dieu existait avec ce dessein avant la fondation du monde, avant même que l'homme ne soit créé. Donc, quand, et c'est pourquoi je vous dis que si vous ne faites pas attention, vous allez vous troubler. Dieu est en train de construire un monde avec une histoire que lui seul comprend. Pourquoi toi tu veux réfléchir avec lui? La parole de Dieu dit, ou ceux qui se réfèrent à la parole de Dieu, que dit, on a dit ceci, on n'a pas dit ceci. La parole de Dieu dit, avant l'existence de ce monde, Dieu savait que le Fils ira. L'homme sera créé, il péchera. Dieu connaît toutes les voies de l'homme et que le Fils viendrait sous la forme d'un homme rempli du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu prendra le monde entier, y compris l'Esprit des hommes, de sorte que Dieu se multiplie. N'oubliez pas qu'à la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu n'était pas, quand disons Jéhovah, il n'était pas seul. Jésus-Christ était là. Le Saint-Esprit était là. Faisons l'homme. La barque, le navire de Tarsis où Jésus-Christ J'ai choisi Jésus-Christ, la barque de gadaréniers dans laquelle se trouvait Jésus-Christ, même dormant ou éveillé, les vents, les tempêtes, les mers l'écoutent. Il les rend riches en bonté, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et se repent du mal. Il me lave de tous mes péchés. Pour lui, mon ténèbre est devenue la lumière pour le Saint-Esprit qu'il m'a donné. Je ne vis plus dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu fasse de nous ceux qui ressemblent au Seigneur et qui ont pitié des pauvres, qui ont pitié de ceux qui sont perdus par leurs péchés, qui prennent contact avec eux, parlent de Jésus-Christ à travers des histoires incompréhensibles qui nous énervent. Dieu se glorifie. Et si nous avons la chance d'être ne serait-ce qu'un petit acteur dans le théâtre de Dieu, acceptons que Dieu aille jusqu'à la fin de son œuvre au lieu de vouloir imposer à Dieu ce que nous pensons. Dieu vous bénisse surabondamment.